Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump aura une fois de plus causé la surprise hier à l'ONU. Le président américain a pour la première fois exprimé sa préférence pour la création d'un État palestinien coexistant avec Israël. Comment interpréter ce tournant de la part du président américain? Élément de réponse dès le début de ce journal avec Nathanaël Charbonnier.
10 ans après la crise financière de 2008, l'économie est de nouveau sous tension.
Oui, c'est ce qui ressort du rapport publié hier soir par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, décryptage à suivre avec Marie Viennot.
L'un des deux hommes accusés par Londres d'avoir empoisonné l'ex-espion Sergueï Skripal et sa fille a été identifié par un site d'investigation, Thomas.
Il s'agirait d'un colonel du renseignement militaire russe, nous dira notre correspondant à Londres, Antoine Gignot.
Dans cette édition également, après une longue phase de tension entre les deux pays, le président turc Recep Tayyip Erdogan entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Allemagne.
Une visite durant laquelle il s'efforcera de favoriser un rapprochement avec Berlin. Avec quelles chances de succès, nous poserons la question à notre correspondant Ludovic Piétenu.
En France, le Premier ministre Édouard Philippe était à Marseille ce matin à l'occasion de la 14e édition du Congrès Région.
Et reste à savoir s'il aura réussi à convaincre et surtout rassurer les élus qui, dans leur très grande majorité, dénoncent le manque d'écoute de l'exécutif. Rien n'est moins sûr, nous dira Stéphane Robert.
Quand la perception des discriminations dans le travail ne fait pas de distinction.
Oui, privé et public, à tous les échelons hiérarchiques et dans tous les secteurs d'emploi, c'est du moins ce qui ressort d'une enquête publiée aujourd'hui par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. Analyse dans ce journal avec Catherine Pétillon. Enfin, comme chaque jeudi, l'interview politique. Je veux inviter aujourd'hui du journal Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. Puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
C'est un grand mot, presque un gros mot aujourd'hui, tant il est employé à tort et à travers, le mot d'identité. Ce que n'est pas l'identité, elle cherche à le définir par la négative. Notre invitée, la sociologue Nathalie Hennick, à la CAREP, l'occasion de la parution de son nouvel essai, ce qui n'est donc pas l'identité. Elle sera avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Parce qu'il s'agit d'une première et même d'un tournant touchant à un conflit vieux de plus d'un demi-siècle, l'information constitue à elle seule ce qu'il convient d'appeler un événement. Hier, le président américain a apporté un soutien clair à une solution à 2 États pour mettre fin à la guerre israélo-palestinienne. Donald Trump a même avancé un calendrier précis en promettant de présenter son plan de paix d'ici 4 mois. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Évidemment, reste à présent à mesurer la véritable nature d'une telle proposition venant d'un homme dont le talent, d'une part, pour raconter et fanfaronner n'est plus à démontrer, dont le parti pris idéologique, d'autre part, en faveur d'Israël a été maintes fois assumé, et enfin, dont le rêve d'aboutir donc à l'accord ultime ne serait à lui seul faire oublier toutes ces années durant lesquelles tous ses prédécesseurs auront, chacun à leur tour, échoué.
Oui, ce qui a fait la force de la déclaration de Donald Trump, c'est qu'elle a été prononcée à l'ONU devant des journalistes du monde entier. Mais qu'a dit le président américain exactement? Eh bien, le mieux, c'est de l'écouter.
If the Israelis and the Palestinians want one state, that's okay with me.
Les Israéliens et les Palestiniens veulent un État, c'est d'accord pour moi. S'ils veulent 2 États, c'est d'accord pour moi. Je suis content s'ils sont contents. On le voit en termes d'analyse politique, on a connu plus fin. Je suis content s'ils sont contents. Cela dit, le président américain retient l'idée de 2 États, vous l'avez dit, et il explique même que les États-Unis seront en mesure de proposer un plan de paix dans les 4 mois à venir, ce qui est quand même assez ambitieux parce que, comme toujours, avec Donald Trump, il commence par tout casser, vous savez, à la façon de l'éléphant qui rentre dans le magasin de porcelaine, puis il tend la main pour la négociation en disant « bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Si bien que beaucoup pensent qu'il faut attendre avant de réagir, et surtout il faudra se fier non pas aux mots de Donald Trump, mais aux actes du président américain, comme l'explique Jean-Paul Chagnolot, professeur de sciences politiques et auteur du livre « Israël-Palestine, la défaite du vainqueur » aux éditions Actes Sud.
C'est la persistance d'une confusion. Parce que il y a les mots, il y a les choses, comme l'on dit. Et les choses, elles sont concrètes. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, il y a eu des décisions unilatérales d'une grande importance. Et ces décisions d'une grande importance, elles ont profondément fragilisé la solution à 2 États. Donc c'est pas pour l'instant quelques mots qui peuvent changer ce qui s'est passé avec Jérusalem, avec ce qui s'est passé sur les réfugiés, ce qui s'est passé avec avec les colonies, un soutien inconditionnel. Donc tant qu'il n'aura pas traduit par d'autres faits concrets ces mots, on reste dans la confusion.
Un bilan des courses, il est urgent d'attendre, d'autant que d'ici l'annonce du plan de paix pour le Moyen-Orient, c'est un autre rendez-vous qui attend Donald Trump, un rendez-vous électoral avec les élections de mi-mandat du 6 novembre prochain, et les résultats suivant s'ils sont bons ou mauvais pour les Républicains pourraient changer quand même pas mal de choses.
Merci Nathanaël Charbonnier. Donald Trump, toujours lui, décidément est plus que jamais imprévisible, alors que doit se tenir aujourd'hui devant le Congrès l'audition de la principale accusatrice du juge Brett Kavanaugh, soupçonnée d'inconduite sexuelle, et alors même que le chef de la Maison Blanche a toujours jugé cette affaire comme une belle et grosse arnaque orchestrée par les démocrates, Donald Trump donc a finalement laissé entendre hier qu'il n'excluait pas de se désolidariser de son candidat à la Cour suprême. Mieux encore, puisque visiblement soucieux de ne pas paraître hostile aux femmes, le milliardaire républicain est allé jusqu'à évoquer la possibilité de choisir une femme pour remplacer le juge Kavanaugh si nécessaire. L'économie américaine se porte de mieux en mieux. La Réserve fédérale a relevé hier son principal taux d'intérêt, conséquence d'une économie forte. Mais attention aux apparences. 6 ans après le début de la crise financière déclenchée par l'effondrement de Lehman Brothers, l'économie américaine a certes repris des couleurs. En revanche, l'embellie post-crise n'aurait pas permis de solidifier en profondeur l'économie globale cette fois-ci. C'est en tous les cas ce qui ressort du rapport 2018 sur le commerce et le développement publié hier soir par la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Dans son rapport, l'ONU appelle les pays à corriger les inégalités créées par l'hypermondialisation et pointe notamment les guerres commerciales comme le symptôme d'un malaise plus profond.
Oui, la CNUSED n'est pas opposée par principe au libre-échange, mais elle dresse un constat sévère de ce qu'elle nomme effectivement une hypermondialisation. Le commerce mondial est mal organisé, il a peu profité aux pays en développement, à part la Chine, et sa structure actuelle conduit à l'accroissement des inégalités. Alors la CNUSED n'est pas la seule à le dire, le FMI et l'OMC font aussi le même constat depuis quelques temps. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'analyse de la CNUSED, c'est qu'elle met l'accent sur les inégalités entre les entreprises, le développement des échanges ayant eu pour effet, dit-elle, chiffre à l'appui, la création de monopoles dominants. 5% des entreprises exportatrices d'un pays captent en effet 80% des revenus liés au libre-échange, nous dit son rapport, et 1% de ces entreprises exportatrices réalisent 57% des exportations en moyenne. Intitulé « La désillusion du libre-échange », le rapport de la CNUSED établit un parallèle intéressant entre la situation actuelle et celle d'avant la Première Guerre mondiale, quand les innovations technologiques d'alors, le télégraphe, le train et les bateaux à vapeur, avaient eu aussi pour effet de rétrécir les distances tout en favorisant l'instabilité financière, la croissance des inégalités et l'émergence de monopoles non contrôlés. Les multinationales produisent ou font produire dans des zones franches qui sont des zones d'exception fiscale et sociale, et cela limite les retombées positives que pourraient en attendre les pays en développement. C'est ça le problème de fond, nous dit la CNUSED, et la guerre commerciale n'est que le symptôme de ce problème. Elle presse d'agir vite et de créer de nouvelles règles antitrust. L'an dernier aussi, cet organe de l'ONU créé en 1964 avait mis l'accent sur le rôle des monopoles dans la non-distribution des richesses liées à l'essor du commerce mondial. Bis repetita, donc, la CNUSED n'est pas le plus écouté des organismes onusiens.
Merci Marie Viennot. Si entre Ankara et Berlin, les sujets de friction n'ont pas manqué ces dernières années, l'heure serait désormais au dégel. Le président turc entame aujourd'hui une visite d'État censée réconcilier les deux pays. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin, je le disais, cette visite est présentée par les deux parties comme destinée donc à apaiser les tensions et on imagine que la tâche s'annonce d'ores et déjà compliquée.
Oui, parce que le passif est chargé avec notamment des arrestations arbitraires de citoyens allemands en Turquie, des touristes, des journalistes. Aujourd'hui encore, 5 ressortissants allemands sont toujours en prison. Le président turc persécute quand il se sent persécuté ou mal aimé. Erdogan n'avait pas apprécié que Berlin interdise plusieurs meetings électoraux sur son territoire. C'était au printemps 2017, au moment du référendum en Turquie. Il voulait s'adresser à l'immense diaspora turque allemande, plus de 3 millions de personnes, mais l'Allemagne avait aussi refusé la accès à certains ministres turcs qui voulaient y faire campagne. Recep Tayyip Erdogan dit alors à Angela Merkel en la tutoyant « Tu as des pratiques nazies ». Autant vous dire que c'est le genre d'insulte qui ne passe pas du tout en Allemagne. Le président turc ne s'était pas arrêté en si mauvais chemin. Il avait aussi accusé Berlin d'héberger des terroristes en évoquant les Kurdes ou les Gulenistes.
Alors au-delà de cette rivalité, Ludovic, les enjeux de cette visite sont multiples, économiques, commerciaux, et c'est sans doute ce qui explique aujourd'hui ce changement de pied de part et d'autre.
Oui, il y a aussi un intérêt géopolitique. L'Allemagne considère la Turquie comme une force capable de retenir l'afflux de réfugiés et Berlin et l'Europe n'ont plus vraiment l'envie d'en accueillir davantage. Erdogan utilise très clairement ce levier pour gommer son statut d'indésirable auprès de Berlin. L'Allemagne fait les choses en grand. Des drapeaux turcs absolument gigantesques ont été placés un peu partout dans la capitale. Il verra la chancelière deux fois, le président Steinmeier. Un dîner sera servi demain soir. Le tapis rouge s'arrête là. Merkel ou d'autres officiels n'y participeront pas. Il y aura des ministres de l'économie et des finances, et puis c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour Erdogan, qui a besoin de parler économie. La sienne ne se porte pas bien, l'inflation est gigantesque. Une monnaie, la livre turque, sa monnaie dévisse. Les 7500 entreprises allemandes présentes en Turquie sont un atout indéniable. Thomas, Erdogan ne peut pas, ne peut plus faire sans l'Allemagne son premier partenaire économique et commercial.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Et puis j'ajoute que hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que l'UEFA doit décider qui de la Turquie ou de l'Allemagne accueillera l'Euro 2024 de football. Au Royaume-Uni, l'identité de Ruslan Boshirov dévoilée par un site d'investigation. Ruslan Boshirov, c'est l'un des deux hommes accusés par Londres d'avoir empoisonné l'ex-espion Sergei Skripal et sa fille en mars dernier en Angleterre. Selon le site d'investigation Bellingcat, non seulement cet homme serait un colonel du renseignement militaire russe, mais surtout, Boshirov s'appellerait surtout en réalité Anatoly Tchepigast, une correspondance à Londres signée Antoine Gignot.
Il est né en 1979, inscrit à l'école militaire à 18 ans, entraîné sur les terrains des commandos marins. Anatoly Tchepiga a servi dans les unités d'élite qui ont joué un rôle clé dans la guerre de Tchétchénie. Des unités qui ont aussi été observées fin 2014 à la frontière ukrainienne. Coïncidence, c'est aussi en 2014 qu'il a été nommé héros de la Fédération de Russie en reconnaissance des services rendus à l'État et à la population. Mais si la plupart des décorations sont remises en public en Russie, celle du colonel Tchepiga lui a été attribuée en toute discrétion officiellement pour une mission de maintien de la paix. Pour l'identifier, le site d'investigation Bellingcat a travaillé avec des correspondants de The Insider en Russie. Ils ont épluché tous les registres des écoles militaires, puis les bases de données téléphoniques, avant de faire des recoupements familiaux sur les réseaux sociaux, en comparant ensuite les photos d'anciens dossiers de demande de passeport. Les autorités russes, elles, considèrent qu'il s'agit de mensonges destinés à détourner l'attention et s'en tiennent à la version de Vladimir Poutine. Le président russe affirme que les deux hommes accusés par Londres sont des civils qui n'ont rien fait de criminel.
L'annuel congrès des régions est traditionnellement l'occasion pour les élus locaux, maires, présidents de régions et départements, de réamorcer le débat sur la décentralisation. Et à ce titre, l'appel de Marseille, lancé hier soir pour une concertation sincère avec l'État, s'inscrit donc dans une forme de continuité. À ceci près toutefois que cette année, le bilan dressé d'un an de relations avec l'exécutif semble particulièrement sévère, car la dégradation des relations ne tiendrait plus seulement à la baisse drastique de certaines dotations. Non, cette année, plus que jamais, les élus se disent victimes d'une forme de mépris. Alors, même s'il serait naïf de ne pas voir aussi dans cet appel des arrière-pensées politiciennes, dans la perspective des européennes et surtout des municipales, il n'en révèle pas moins une fracture, donc, aujourd'hui, entre d'un côté un pouvoir perçu comme arrogant et technocratique, et de l'autre, des élus qui se sentent déconsidérés. Alors, le Premier ministre, Édouard Philippe, était justement à Marseille ce matin, et il n'est pas certain que ses propos aient réussi à convaincre et surtout à rassurer les élus. Les précisions sur place de Stéphane Robert.
C'est un dialogue de sourds auquel on a assisté ce matin entre les élus locaux et le Premier ministre. Le président de l'Association des régions de France, Hervé Morin, a rappelé tout le mépris dans lequel se sont tenues les collectivités territoriales, à travers notamment un exemple.
Ce matin, j'ouvre la presse et je vois le ministre de la fonction publique, j'imagine que ça doit être lui, qui dit on va aider les collectivités locales à passer aux 35 heures. Eh ben mon pote, c'est déjà fait. La région Normandie, elle l'a fait. Et mon pote, va voir dans la fonction publique d'État et reprend les rapports de la Cour des comptes pour demander à l'ensemble de la fonction publique d'État de passer à 35 heures. Est-ce qu'on connaît une construction qui consisterait à parler d'une politique sans avoir même passé un coup de fil aux trois présidents des collectivités qui gèrent ces fonctionnaires? Enfin, c'est quand même ahurissant.
Réponse du Premier ministre, Édouard Philippe.
Monsieur le Président, le sujet de la fonction publique territoriale a été inscrit à l'ordre du jour de cette conférence nationale, de l'instance de dialogue de la Conférence nationale du territoire. Il a été inscrit à l'ordre du jour. On a même fait, Monsieur le Président, des propositions en la matière dont on pensait qu'elles pouvaient être utiles et qui ont été écartées. Parce que le retour des collectivités territoriales, ça a été de dire « Non, finalement, c'est pas une bonne idée, on veut pas ça. » Et on les a pas reprises. Je dis pas que vous y étiez là, monsieur le Président, n'est pas toujours. Mais, non, vous venez pas toujours, c'est pas grave, c'est une décision politique qui vous appartient, je la respecte. Mais c'est un fait. Mais nous avons discuté de ces questions à la Conférence nationale des territoires.
Édouard Philippe a ainsi rappelé qu'en juin dernier, les régions, les départements et les maires avaient décidé de boycotter la Conférence des territoires. Pour le reste, il a fait la pédagogie de l'action du gouvernement vis-à-vis des collectivités, actant simplement le fait qu'il y a des désaccords, et il les a invités à renouer le dialogue, à travers notamment une réunion à Matignon, le 19 octobre prochain.
Le nouveau directeur général d'Air France, KLM, le Canadien Smith, dément formellement les propos qui lui sont prêtés aujourd'hui par le quotidien Financial Times. Il n'a jamais affirmé que l'État français était prêt à vendre sa participation dans la compagnie. Il s'agit d'une incompréhension. Et de fait, on avait du mal à comprendre pourquoi, alors même que le journal de la City affirmait qu'Emmanuel Macron était prêt à céder les 14% de participation de l'État, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, affirmait lui ce matin qu'une telle cession n'était pas à l'ordre du jour. Oh, mais c'était pour rire. Si la justification par l'humour reste une manière fréquente de justifier, mais aussi de minimiser des comportements stigmatisants, le phénomène est loin d'être marginal. Durant les 5 dernières années, une personne sur 4 aurait fait l'expérience au travail de comportements sexistes, homophobes, racistes, liés à la religion, au handicap ou bien encore à l'état de santé. Ce matin, le défenseur des droits, Jacques Toubon, et l'Organisation internationale du travail pour la France présentaient leur 11e baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi, et visiblement ce qu'il en ressort, Catherine Pétillon, c'est que les discriminations, elles, ne font pas de distinction.
Premier constat, cela arrive partout, dans le public comme dans le privé, à tous les échelons hiérarchiques et dans tous les secteurs d'emploi. En revanche, nous ne sommes pas égaux devant le risque d'être exposés à des propos ou des comportements stigmatisants. Les femmes sont plus concernées que les hommes, mais pas toutes de la même manière. C'est ce que montre l'analyse intersectionnelle adoptée par le rapport, c'est-à-dire qu'il observe la manière dont interagissent plusieurs critères comme le sexe, la couleur de peau, etc. Les femmes perçues comme non blanches et celles qui sont handicapées sont davantage exposées aux attitudes hostiles que les autres, un tiers d'entre elles rapportent ce type d'expérience. Et si les hommes blancs d'âge moyen sont peu concernés, seuls 4%, le chiffre tourne autour des 20% pour les hommes homosexuels ou bisexuels et des jeunes hommes perçus comme non blancs. Ces comportements discriminants prennent la forme de plaisanteries, mais aussi de mise à l'écart, injures, refus de promotion, écart de salaire, etc. Dans ce rapport, le défenseur des droits et l'OIT décrivent aussi un continuum qui va d'expériences de discrimination à des situations de dévalorisation au travail. Si tu en faisais plus, ton travail serait mieux reconnu. 37% des femmes interrogées se sont entendues dire ce genre de choses, c'est plus que les hommes, et peut renvoyer aux préjugés sur le manque de disponibilité et d'investissement au travail des femmes, note le rapport. En revanche, sous-estimation des compétences ou nécessité d'effectuer des tâches dévalorisantes sont également expérimentées par les deux sexes. Toutes ces situations observées dans ce rapport sont de nature à engager la responsabilité des employeurs, rappelle le défenseur des droits.
Comme chaque jeudi à présent, l'interview politique de la semaine. Invité de ce journal aujourd'hui, Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique en direct et en duplex du ministère. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et pour vous interroger à vos côtés, Bénédicte Robin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Thomas, bonjour Mounir Majoubi.
Alors avant de vous céder la parole, une première question monsieur Majoubi. Cette semaine, le comité d'éthique s'est prononcé pour l'extension de la PMA. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron à laquelle je crois que vous êtes tout particulièrement attaché, au point que devant le silence depuis du chef de l'État, la question était devenue quasi un casus belli entre vous. Est-ce que vous êtes satisfait des préconisations d'une part du comité d'éthique et surtout confiant d'autre part quant au fait que le président tiendra bel et bien sa promesse ?
Vous savez, sur ce sujet, le Premier ministre a pu s'exprimer hier à l'Assemblée nationale. Ce qu'on cherche, ce n'est pas le consensus. On n'arrivera pas à mettre d'accord tous les Français. Ça n'est pas possible. Ce qui était important, c'est qu'on écoute tout le monde. Mais ce qui était important aussi, et je l'ai rappelé à plusieurs reprises, c'est que notre mouvement, notre majorité, a beaucoup travaillé sur certains sujets et a un ensemble de valeurs qu'elle partage. Et dans cet ensemble de valeurs, il y a cette promesse qui a été faite, d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Et donc, moi, j'ai la certitude que nous irons donc jusqu'au bout. Notre majorité est mobilisée sur ce sujet. Ce qui est très important aussi, c'est que même quand on est pour la PMA, et plusieurs ministres du gouvernement ont dit que depuis longtemps, ils avaient soutenu la PMA pour toutes, et c'est mon cas personnel. Eh bien, je suis aussi un militant de l'écoute. Aujourd'hui, j'ai passé du temps à lire, à écouter tous ceux qui essayaient d'expliquer dans leurs mots, dans leurs valeurs, dans leurs croyances, pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitaient pas ouvrir cette PMA. Chacun utilisant son vocabulaire, non à la PMA sans père, non à la manipulation de l'humain, etc., etc. J'ai tout écouté. Et donc, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce qui sera très important, c'est que, en mettant en place la PMA pour toutes, on ne le fasse pas contre une partie des Français, mais qu'on le fasse bien pour l'égalité entre les Françaises.
Une première question de Bénédicte Robin.
Mounir Majoubi, on a entendu Stéphane Robert à Marseille. Votre Premier ministre Édouard Philippe est venu au chevet de ces élus locaux qui expriment depuis un certain temps maintenant leur amertume, leur désespérance même pour certains, un certain mépris de l'exécutif et même une recentralisation, recentralisée au gouvernement.
On n'est certainement pas le gouvernement de la recentralisation. Et d'ailleurs, la marque de respect de ce gouvernement, c'est que le président de la République est allé à la rencontre de ces collectivités. C'est que le Premier ministre a toujours été à leur disponibilité. Et aujourd'hui, en allant devant eux, alors qu'ils annonçaient, et vous avez entendu les mots d'Hervé Morin, alors qu'ils annonçaient un discours dur contre ce gouvernement, il a voulu être présent. Il a voulu être présent pour dire, on a créé des instances pour discuter. Certains ne sont pas venus, d'autres sont venus.
Oui, boycott,
mais on
n'a
jamais cessé de travailler ensemble. Vous savez, même quand il y a ce boycott, on a continué à travailler sur certains sujets. Il y a des sujets sur lesquels on ne va pas laisser souffrir les Français, sur l'équipement numérique du territoire, sur l'inclusion, sur les grands sujets sociaux. Vous dites quand même pas que les départements ont arrêté de parler avec l'État, que les régions ont arrêté de parler avec l'État. Heureusement qu'on continue de travailler, heureusement qu'on continue de faire avancer les plans. Ce serait dramatique pour les Français si on ne le faisait pas. Et puis, il y a ces moments publics, ces moments où il est normal que ces territoires, et d'ailleurs le thème de ce matin, le hashtag de ce matin, c'était « Territoires unis ». C'était de dire que quel que soit l'échelon, il y a une prise de conscience de la nécessité de penser un État déconcentré, un État décentralisé. Eh bien, aujourd'hui, la discussion, elle a eu lieu entre le rôle de l'État déconcentré avec le rôle et la réorganisation des services de l'État dans les départements et dans les régions, et le rôle majeur et l'indépendance majeure des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.
Et la décentralisation aussi, il y a un problème de fracture, vous parlez des territoires, fracture numérique, ça c'est le dossier qui vous incombe. Il y a encore ces zones blanches, vous avez fait un plan haut débit pour 2022, que 100% du territoire soit couvert par le haut débit, on en est où de ça en septembre 2018?
Ça c'est typiquement un sujet sur lequel, dès notre arrivée, on a travaillé avec les collectivités territoriales, on continue de travailler avec les collectivités territoriales et aucun Français ne comprendrait qu'on arrête.
Oui, mais certaines collectivités n'ont pas forcément les moyens et doivent parfois mettre la main à la poche, elles aussi, pour ce développement du numérique et elles n'en ont pas les moyens et elles vous le disent aussi.
Alors, sur le développement du numérique, deux choses. Il y a le développement du réseau mobile et il y a le développement du très haut débit et du haut débit. Sur le mobile, on a mis plusieurs mois à discuter et à négocier. L'engagement, il est clair, il est net. Un réseau 4G de qualité partout sur le territoire qui permettra...
C'est-à-dire un très haut débit de téléphone portable.
Un très bon débit de Internet. Téléphone portable avec Internet pour pouvoir se connecter avec son téléphone sur tous les services en ligne. Cet engagement, il se traduit, vous savez, de façon très prosaïque, en des nouveaux poteaux. La procédure, des nouveaux pylônes, c'est les grands, poteaux, c'est les plus petits, sur lesquels on met des antennes. Là-dessus, on a... négocier avec les opérateurs. L'État s'est engagé à renoncer à 3,5 milliards d'euros d'indemnités de licences de la part de ses opérateurs sur les prochaines années. En échange de quoi, nous avons établi un calendrier très strict et très précis de ces nouveaux poteaux et de ces nouveaux pylônes dans les prochains mois et les prochaines années. C'est laquelle? La méthode, c'est celle de l'État déconcentré qui rencontre l'État décentralisé. Depuis le début du mois de septembre, les préfets, partout en France, réunissent les élus locaux, les exécutifs des différentes collectivités pour identifier département par département les pylônes prioritaires pour le prochain semestre et pour le semestre d'après. Et pour le semestre d'après. Et les opérateurs derrière ont l'obligation de respecter ces recommandations.
Sinon ils ont des amendes.
Des amendes et des sanctions très fortes. Ce qui n'a jamais existé. Avant, on leur demandait s'il vous plaît, installez-nous un poteau. Aujourd'hui, on ne leur dit pas s'il vous plaît, on leur dit c'est ici et on va voir quand est-ce que vous aurez fini de le mettre.
Et Internet sur la toile, justement. Vous avez dit récemment qu'il fallait le civiliser Internet. Vous jugez en somme que ça devient déversoir, notamment les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi concrètement? Reciviliser?
Il ne faut pas se concentrer sur le mot de reciviliser et de censure. J'ai trop été caricaturé là-dessus. Ce qui est certain et que je maintiens, c'est qu'il faut amener plus de civilité. Et ça, personne ne pourra le critiquer. Il ne faut pas qu'on soit dans un dialogue idéologisé sur ce qui s'y passe. C'est inacceptable d'être dans un espace où les gens se comportent différemment que dans la vraie vie. Ce qu'on n'accepte pas dans la vie physique, on ne doit pas l'accepter en ligne. Ce que nous avons proposé, c'est deux choses. Un, par l'éducation, par la formation, par le rapport qu'on a au numérique, qu'on aide notre jeune génération à se comporter de façon civile quand elle est en ligne. Et ensuite, sur les comportements extrêmes, être capable de mieux sanctionner, de poursuivre et de sensibiliser, de responsabiliser les plateformes pour qu'elles jouent leur rôle.
Une dernière question. Vous avez dit que vous pouviez être un bon candidat pour Paris, pour les municipales. Vous présentez?
C'est pas le moment de la présentation, c'est pas le moment de dire si je suis candidat ou pas.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de volontaires, Benjamin Griveaux dans votre gouvernement, Édouard Philippe, le nom infiltré.
On a lancé un beau projet pour les Parisiennes et les Parisiens qui est d'aller les écouter. Le 3 octobre à l'Alhambra, nous serons tous présents. Tous les Français sont invités.
Finalement, c'est mieux d'être maire qu'au gouvernement aujourd'hui.
Vous savez, au gouvernement, j'ai une chance incroyable de pouvoir transformer la France grâce au numérique. Être maire, c'est une magnifique fonction qui permet d'être au quotidien auprès des Français et des Françaises.
Et on terminera là-dessus.
Bonne journée.
Merci Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du numérique, d'avoir été avec nous en direct et en duplex du ministère. Et merci à Bénédicte Robin. On termine avec un mot rapide de météo. L'après-midi sera une fois de plus agréable avec du soleil et les températures particulièrement douces pour la saison, entre 20 et 32 degrés.